Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et c'est l'opportunité de pouvoir discuter avec vous, en particulier à Françoise Lanthaux mais Jean-Louis Derouet, auquel je dois ma présence parmi vous cet après-midi. Alors effectivement, je n'ai jamais travaillé ni de près ni de loin sur l'activité ou le travail des enseignants. Et donc de ce point de vue-là, je vais produire un propos décalé, en tout cas, de par les terrains dont je vais pouvoir vous parler. Mais j'espère que voilà, c'est un décalage qui va s'avérer fructueux et va pouvoir permettre de nourrir un échange. En tout cas, c'est pour moi tout l'enjeu de ma présence ici. Alors, le thème très général de mon intervention porte sur la relation de service. Bon, c'est un thème un peu emblématique pour désigner toute cette politique qu'on trouve dans un certain nombre de prescriptions managériales aujourd'hui dans toutes sortes d'organisations qui consistent à rapprocher les professionnels des usagers. Et en l'occurrence, sur le cas des services publics, effectivement, nombre de services publics depuis maintenant une bonne vingtaine d'années sont engagés dans toute une série d'opérations de modernisation qui ne manquent pas de rappeler l'importance du public. Hein. Alors, formation à l'accueil, rénovation des bornes d'accueil, des guichets, standards téléphoniques plus performants, formation à la communication. J'en passe. Toute cette préoccupation hein, à écouter les usagers, à mettre l'usager au centre, et ce, dans des services relativement variés. Alors, sans rien présupposer de ce que peut recouvrir exactement la notion même de relation de service, hein, et de faire une histoire, disons, plus conceptuelle de comment elle surgit dans les discussions, dans les débats politiques, et comment elle trouve une inscription dans un certain nombre d'outils ou de mesures managériales. Tout ce que je peux dire en introduction de manière très générale, c'est que on va trouver cette évocation de la place de l'usager au début des années 80 dans des entreprises publiques. C'est la RATP et une campagne publicitaire ticket chic, ticket choc, qui date de 1983 et qui, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, place les services de marketing au centre et non plus les services techniques. Hein. Ce qui va induire tout un certain nombre de reconfigurations importantes des outils de gestion à l'intérieur de l'entreprise, censés mesurer désormais son service aux voyageurs, alors qu'auparavant, c'était pas nécessairement ce genre d'outils qui l'emportait. Vous voyez que sur ma diapositive, j'ai essayé de mélanger les choses très volontairement, hein, à la fois des mesures managériales ou des campagnes de publicité ou des rapports publics. Le premier rapport public important dans cette question de l'usager, c'est le rapport Sapin, qui date aussi de 83. Et on va évoluer comme ça avec le temps. Et plus on évolue avec le temps, et plus on se rapproche en quelque sorte du centre de l'État. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toute une histoire dont on voit bien que d'abord elle concerne les entreprises publiques, puis plutôt des services publics à la périphérie de l'État. Je pense à des services publics que j'ai longtemps étudiés, qui sont les organismes de sécurité sociale. Les organismes de sécurité sociale qui sont des organismes privés, hein, mais des organismes qui, évidemment, remplissent des missions de service public. Donc, ce sont dans ces organismes-là qu'on va trouver, à partir de la fin des années 80, une politique de recentrage sur l'usager de manière très forte, et qui vont entrer en résonance avec un certain nombre de volontés politiques. Je pense à la circulaire Rocard, par exemple, de 89, à justement placer le public comme préoccupation majeure des services publics. Il y a le rapport de Clauzet aussi sur la modernisation de l'État, et qui place la question de l'usager là aussi comme un enjeu de réconciliation des citoyens avec l'État et comme un gage de modernisation. Donc on va continuer comme ça jusqu'à finalement les années récentes. On pourrait prendre la tentative de réforme de Christian Sauter, alors ministre des Finances, hein, et de mettre le contribuable au centre. Donc là, on est en 2000. Et donc, on voit bien cette évolution, hein, qui part de la périphérie pour gagner le centre, c'est-à-dire, de ce point de vue-là, une histoire de la modernisation des services publics qui va à l'encontre de toutes les... des processus de modernisation qu'auparavant les services publics avaient plutôt connus et qui reposaient plutôt sur le mouvement inverse, partant du centre et gagnant progressivement la périphérie. On voit aussi que c'est un certain nombre cette invitation à se rapprocher des usagers, à mettre les usagers au centre, va s'incarner dans un certain nombre de dispositifs réglementaires, de projets de loi. Je pense à la loi du 12 avril sur les usagers, la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades. On pourrait revenir sur ce détail, évidemment, là, c'est très impressionniste ce que je veux évoquer. Simplement pour dire qu'on voit bien ce mouvement qui a maintenant tout de même une certaine longueur. En tant que sociologue, évidemment, c'est ce genre de processus qui m'intéresse d'analyser. Alors, moi je suis un sociologue particulier, je suis, s'il faut des étiquettes rapides, un sociologue du travail. Ça veut dire que c'est une sorte de pari de la recherche, hein, de faire de l'analyse du travail un point de passage obligé pour analyser, par exemple, ce genre de choses, c'est-à-dire ce genre de prescriptions, à la fois réglementaires, managériales, ou plus générales, participant au débat public, sur remettre l'usager au centre. J'irai un petit peu plus loin. Je suis un sociologue du travail qui s'intéresse vraiment au travail. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que la sociologie du travail est un champ constitué qui a elle-même toute une histoire, mais disons que pour moi l'enjeu c'est véritablement d'analyser le travail en activité, et je pense que là c'est une première résonance avec une des préoccupations centrales de ce séminaire. C'est véritablement de regarder le travail tel qu'il se fait, en situation, au moment où il se fait, qui constitue un élément incontournable pour moi de la recherche, pariant que, évidemment, ce détour va nous permettre d'éclairer un certain nombre de choses sur l'évolution des services publics et des formes d'intervention de l'État. Donc j'insiste ici tout particulièrement sur cet aspect. Et alors, dans cette mesure-là, évidemment, j'entre en résonance alors avec ce que Jean-Louis Derouet appelait le programme constructiviste. Bon, moi, je parlerai de programme ou de tournant pragmatique. C'est-à-dire que ce qui est vraiment au cœur, c'est regarder l'action, hein, et regarder l'action en train de se faire. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça rejoint très largement tout un courant que connaissent les sciences sociales depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, qu'on trouve en sociologie, mais qu'on va trouver dans d'autres disciplines également, en économie, en psychologie, parfois en droit, et qui fait précisément de l'analyse de l'action en train de se faire un élément, le point de passage obligé pour la recherche. Le pari, évidemment, n'étant pas de s'arrêter à la simple description maniaque des activités pratiques, cognitives, des acteurs pris dans une situation, mais de rejoindre un certain nombre d'éléments beaucoup plus généraux, hein, qui touchent à la forme d'État à laquelle qui est en train de s'élaborer, des questions de sociologue, hein, évidemment, qui sont ici et qui sont ici centrales. Donc en cela, évidemment, la résonance avec les travaux aussi bien opérés par des courants sociologiques comme l'ethnométhodologie, le programme de Garfinkel, un certain volet de la sociologie interactionniste, mais les travaux aussi en cognition distribuée, la revalorisation de la place des outils, des équipements, des dispositifs dans l'analyse, la référence aux travaux sur les conventions. Bon, tous ces éléments, évidemment, sont centraux, de mon point de vue, de ce tournant pragmatique que connaissent les sciences sociales et dans lequel je me situe. Alors, pour dire juste une petite précision, c'est que dans ce cadre-là, moi je regarde, enfin en tout cas, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de quelque chose que j'ai très longtemps étudié et que je continue à regarder, qui est le travail des professionnels de l'État chargés de mettre en œuvre, disons, un certain nombre de réglementations. Et pour lesquels cette mise en œuvre passe par la manipulation d'outils bureaucratiques assez basiques, papier, formulaire, imprimé, dossier, programme informatique. Bon, j'ai un collègue qui s'amuse toujours à me dire que je m'intéresse aux boring organizations, aux organisations ennuyeuses. Je lui dis, oui, c'est ça, finalement, le travail administratif. De s'intéresser au travail administratif qui, longtemps, de mon point de vue, est resté un état de décor, en fait, dans la description sociologique. Largement simplifié, en fait, par une opposition sur laquelle je reviendrai peut-être au cours de mon exposé, entre, d'un côté, une lecture très juridique du travail administratif. Circuler, il n'y a rien à voir. En gros, c'est un travail transparent qui consiste à appliquer mécaniquement des textes de loi dont on ne voit pas très bien pourquoi on irait regarder les gens manipuler des papiers ou des dossiers. Enfin, c'est pas extrêmement enrichissant de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue juridique, donc du point de vue du droit. Donc, cette description du travail administratif structurée entre d'un côté un point de vue juridique et puis un point de vue sociologique de l'autre, qui fait la critique en fait de ce point de vue de juriste, pour montrer qu'au contraire, lorsqu'on regarde l'acteur en train d'appliquer le droit, on voit un acteur s'arranger avec lui. Et donc une sociologie très centrée sur les arrangements, le marchandage, la règle et les détours de la règle. Et donc on est à côté du droit. On est à ce moment-là à côté. Donc l'idée c'était d'aller un petit peu plus loin que cette opposition que je caricature à peine, pour m'intéresser donc au travail administratif en train de se faire. La deuxième chose, pour continuer dans l'introduction, c'est comme certains films, pour attendre le générique, il y a une introduction un peu longue, mais qui a été évoquée, je crois, dans vos réflexions, notamment en introduction de ce séminaire, c'est la question de l'attache à l'institution, qui renvoie à un problème très classique posé par la science politique et les institutionnalistes, à savoir, je le dirais comme ça, le double corps du fonctionnaire, avec d'un côté sa personne physique et sociale, donc faite de chair, d'os, de croyances, d'émotions toutes personnelles, puis de l'autre, effectivement, son appartenance institutionnelle, l'agent faisant corps avec l'institution qu'il représente. Voilà, je vois un policier, je vois la police. Donc, il me semble que c'est une question intéressante que cet attachement à l'institution, puisque, j'ai la population, en quelque sorte, m'attribue à moi, est constituée essentiellement d'agents de service public et pour un certain nombre de fonctionnaires. Donc, la question, c'est bien sûr, de quoi est fait cet attachement à l'institution, Bon, qui renvoie évidemment là à une certaine, un certain rapport au monde, à une certaine théorie sur le monde, hein, sur le sens de son intervention, sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Bon, alors je pense à des formules comme le sens de l'intérêt général, l'esprit de service public, le désintéressement. Bon, tous ces traits emblématiques, disons, ou souvent présentés de manière emblématique de la culture de service public, qui repose sur une certaine catégorisation, qui soit dit en passant, qu'on ne retrouve pas à l'étranger, hein, donc qui a elle-même une histoire, mais un lien qu'on, en tout cas, qui dit quelque chose d'un rapport moral aussi à son travail et qui renvoie directement à ce qu'est l'institution à laquelle on appartient et à ce qui la fonde. Donc, il me semble que c'est ces deux choses hein, qui me paraissent importantes. Bon, alors, faudrait ce serait bien que je fasse dérouler les diapositives en même temps que ma discussion. Bon, tout ça pour dire que je travaille sur le travail administratif. Vous voyez, j'ai mis des photos du travail administratif qui m'intéresse, qui est pas bon, comme tout travail qui est compliqué à observer. Mais sur lequel évidemment je vais revenir. Bon, mais sur cette question de la tâche à l'institution. Je ne veux pas là non plus inaugurer, lancer une grande discussion parce que le problème de la notion, c'est que c'est une notion extrêmement polysémique, fourre-tout. Donc, moi, il y a une définition qui m'a beaucoup intéressé, qui est celle que donne un vieux juriste sur ces questions de service public, qui est Maurice Auriou. Et qui a l'avantage d'être une définition dynamique, je dirais, de l'institution. Alors pour lui, l'institution renvoie, je le cite, à une idée d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social. C'est une idée, un projet, une direction, dit-il, et qu'il distingue très clairement de ce qu'il appelle l'organisation, cette dernière étant le pouvoir mis au service de cette idée pour sa réalisation. Donc, c'est quelque chose qui est important. D'un côté, on a bien l'idée, le projet général qui fonde l'institution. De l'autre, on a ce qui est censé permettre sa mise en œuvre, l'organisation. Alors, il y a une idée très intéressante chez Auriou, c'est que l'idée a une existence objective. Elle est donc normalement servie par les règles et les dispositifs de l'organisation qui lui permettent de l'inscrire dans l'action. Hein. Mais c'est une idée, justement, pour se déprendre d'une vision extrêmement figée de l'institution, Auriou montre bien que c'est une idée que l'on peut perdre. Les individus peuvent perdre de vue l'idée de l'institution, le projet fondateur hein, qui est au fondement même de l'institution. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Où les individus peuvent aussi la découvrir. Hein, ne pas la saisir immédiatement. Et donc, la question forte d'Oriou, c'est une question oui, dynamique, vitaliste, il faudrait dire exactement, puisque c'est véritablement le courant de pensée dans lequel il s'inscrit, c'est comment assurer la permanence de ce mouvement en mesure d'entretenir la vie de l'institution, de ne jamais perdre cette idée. Et donc, le pari, en quelque sorte, que je fais et d'autres peuvent faire, c'est qu'effectivement, le travail est très certainement à la croisée de ces deux questions. C'est-à-dire à la fois la question de l'institution, du projet, du sens, de l'idée que l'agent, en tant que lié à une institution, a charge de mettre en œuvre. Donc, un des côtés de mon triangle, le côté gauche pour vous. Et en même temps, la question de l'action efficace, parce qu'il faut bien faire les choses quand on est engagé, confronté au monde, hein, et donc la question de l'organisation et des ressources qu'elle met à la disposition de chacun pour pouvoir s'acquitter en fait de sa tâche. Donc la base même de mon triangle. Voilà, donc c'est un peu cette circulation, hein, entre ces trois pôles qu'il m'intéresse de regarder lorsque je regarde en fait le travail administratif ordinaire. Voilà, alors maintenant la question. Bah, la question c'est alors quid de la relation de service? Qu'est-ce que la relation de service en tant que elle s'inscrit dans un certain nombre de préconisations managériales va provoquer à la fois en termes d'action efficace, donc le rapport entre travail et organisation, et puis en tant qu'attache institutionnelle entre travail et idée. Voilà, c'est ça mon problème. Alors donc, je vous propose qu'on le regarde ensemble. Voilà, j'ai terminé ma longue introduction et je vais vous proposer en fait deux points qui vont articuler mon exposé. Un premier point qui va porter sur trois grandes transformations qui sont à des niveaux différents, mais que la relation de service entraîne sur la question du travail. Et puis la deuxième point qui va porter plus précisément sur les conséquences sur le travail et notamment sur la subjectivité au travail, hein, qui sont un élément qui m'a semblé être un élément particulièrement central dans votre réflexion posée par ce séminaire. Voilà, donc commençons par le premier point. Encore une fois, ce que je regarde encore de manière plus précise, hein, c'est des agents d'exécution qui ont comme mission d'attribuer des aides, des subventions, plus largement de l'argent public, au nom du droit. Alors je vais particulièrement me centrer sur les organismes de sécurité sociale parce que c'est là un terrain de prédilection que j'ai longtemps exploré, moins sur les services déconcentrés de l'agriculture que j'ai regardé plus récemment, mais bon, on pourra évidemment revenir sur tout, peu importe la question du terrain. Bon, je vais revenir alors là sur un certain nombre de discussions. Bon, la première chose qui me paraît intéressante pour regarder d'emblée les grandes transformations de la relation de service, c'est d'abord de se déprendre. Je recommanderais ça dans une première démarche, de se déprendre un certain nombre d'a priori sur la relation de service. Je dirais que moi dans mon travail, ne posons pas de définition a priori de ce qu'elle est ou de ce qu'elle devrait être, mais regardons comment, à travers un certain nombre de programmes, de réglementations, de prescriptions liées au travail, elle est mise en forme, définie, construite, hein, pour justement apprécier toutes les étendues possibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que rendre le travail administratif plus accessible à l'usager, plus simple, plus transparent. Qu'est-ce que ça veut dire rapprocher le fonctionnaire de l'usager? Qu'est-ce que c'est que ce principe de proximité dont on se réclame? Bon, et là, je mets à chaque fois que des guillemets entre toutes ces formulations, hein, sachant que j'essaie de voir leur déclinaison très concrète à travers l'action donc des agents de l'État que j'observe. Alors, la première chose sur laquelle j'aimerais me pencher, c'est la redéfinition de l'organisation du travail, proprement dite, que la référence à la relation de service va engager. Bon, moi je prends exprès là en référence des caisses de sécurité sociale que je connais bien. Là ici vous avez sur la diapositive une coupe transversale d'une caisse régionale d'assurance maladie dans les années 80. Donc j'ai fait exprès, je prends un bâtiment, je le coupe en tranches. Et qu'est-ce que je vois dans les années 80? Je vois un bâtiment de 4 étages. Alors, un rez-de-chaussée, donc je ne sais pas si c'est à peu près clair, et puis deux étages de sous-sol. Hein. Alors, vous avez au sous-sol, c'est un organisme, donc Caisse régionale d'assurance maladie, mais ici, on est dans un bâtiment qui a la charge de verser en fait les retraites des salariés du régime général. Bon, donc ça dépend de la branche vieillesse, etc. Je passe sur les complications un peu institutionnelles, mais la description des étages, en fait, vous avez les deux sous-sols qui sont des étages d'archives. Vous avez au rez-de-chaussée le guichet. Vous avez les deux grandes formes que prennent ici le guichet. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un endroit où vous avez uniquement un guichet et une table. De l'autre côté, vous avez un téléphone. Bon, et ce qui caractérise ici ces éléments, c'est que ici, ces deux guichets, en quelque sorte, ne sont pas équipés informatiquement. Et ensuite, vous avez les étages supérieurs, qui eux sont équipés informatiquement, qui sont en gros des étages qui sont spécialisés sur un segment, hein, un type de réglementation ou un type d'opération très précise du travail administratif à opérer. Donc premier étage, deuxième étage, troisième étage, le quatrième étant l'étage des contrôleurs, en plus d'être l'étage de la direction. Donc si je me pose une question très simple, voilà un bâtiment qui transforme des demandes émanant du public en argent, on va voir se constituer eh bien, des dossiers, des papiers, toutes sortes de choses qui vont s'accumuler dans des chemises en carton, qui vont être saisies informatiquement, qui vont circuler dans le bâtiment, et jusqu'au feu vert final, déclenché par le service de contrôle, qui va permettre aux salariés retraités de recevoir sa pension à la fin de chaque mois. Alors, on a ici, dans cette description, une représentation parfaite du modèle weberien, bureaucratique, tel qu'on peut le connaître dans les manuels les plus classiques, hein, c'est-à-dire à la fois une spécialisation du travail relativement importante, de telle sorte qu'aucun agent ne puisse maîtriser l'ensemble du processus de décision. Donc ça, c'est un élément important. Donc il n'y a que en fait les agents de contrôle qui ont une vision globale de l'affaire, puisqu'ils contrôlent tout le processus qui s'est fait auparavant. Bon, ce sont les agents les plus experts, les plus rodés, les plus anciens. Bon, donc une spécialisation du travail. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est la séparation radicale entre back-office et front-office. Hein. Les guichets ne sont pas équip ne sont équipés d'aucun outil leur permettant aux agents d'intervenir dans le traitement des dossiers. Et inversement, les étages ne sont équipés d'aucun dispositif leur permettant d'entrer en communication avec le public. Voilà. Donc ça, c'est un élément vraiment de base. Bon, très classiquement, la carrière d'un agent consiste à gravir les étages. Alors justement, l'intérêt de la référence à la relation de service, c'est qu'elle remet en cause assez profondément cette organisation. Et cette même caisse, dans les années 70, est effectivement complètement réorganisée, la même coupe hein, du bâtiment, en oui, 90, qu'est-ce que je sais pas ce que. 70, oui. 90, donc, bon, va engager tout un ensemble de reconfigurations. D'abord, la séparation entre back-office et front-office saute complètement. Il y a l'idée que les agents traitent l'ensemble du dossier du début à la fin et le font en relation directe avec l'usager dont il s'occupe. Donc, la polyvalence se substitue à la spécialisation. L'hybridation, en tout cas, entre back-office et front-office, remplace la séparation forte qui existait dans le modèle précédent. Et donc, on a l'idée, c'est ça qui est important, de personnalisation du travail, de personnalisation du service. Là, le mot est clairement inscrit dans cette réorganisation. En fait, au sein du bâtiment, tout fonctionne comme si vous aviez des tas de petites caisses, petites unités hein, centrales de traitement qui analysent, qui traitent l'ensemble des demandes des usagers avec sur la base une compétence territoriale. Donc, on a l'idée d'une proximité à la fois physique avec l'usager et de proximité géographique. Enfin, c'est-à-dire que vous avez l'unité Finistère Sud, qui donc est spécialisée voilà, sur tous les usagers, les futurs retraités, enfin voilà, ceux qui sont en train de demander leur retraite et qui habitent le Finistère Sud. Alors non, oui, effectivement, ça pourrait être comme ça. Non, ça c'est en fait un gros fichier. Hein. C'est un fichier qui centralise toutes les données liées aux carrières en fait des salariés et qui est un fichier national qui est un voilà et donc dont dépendent évidemment les services. Bon. Vous voyez que le service du contrôle a échappé à cette. Alors, vous avez aussi une politique de mise en place d'antennes au plus près des gens. Hein, donc, dans les villes, c'est ce que représente mon petit carré là, ici, sur la droite. Bon, alors évidemment, cette reconfiguration-là, j'ai pris l'exemple ici d'un organisme de sécurité sociale, mais vous allez le retrouver dans plein d'autres institutions. Je pense par exemple à la NPE. Bon, mais la NPE, on pourrait bien voir, hein, si on faisait l'histoire de la NPE, on verrait que à chaque fois qu'un problème s'est posé, dans la grande tradition bureaucratique, l'institution a répondu un corps d'agents spécialisés. Et donc, il y a cette spécialisation du travail qui est extrêmement importante du point de vue du modèle classique bureaucratique. Hein. 1967, l'ANPE se crée, on crée un corps d'agents dits prospecteurs placiers qui sont les agents chargés de mettre en relation l'offre et la demande et de placer les gens. Bon, sachant qu'à l'époque, le problème est plutôt de. Et pas le problème du chômage. Hein, mais. Bon, il y a des problèmes de formation qui commencent à se poser à la fin des années 60, des problèmes de reconversion professionnelle, dans un contexte de plein emploi. 1969, on crée les conseillers professionnels. Bon. Et puis on va continuer comme ça, on crée les conseillers spécialisés dans la relation à l'entreprise, etc., etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que précisément avec la relation de service. C'est toute une réorganisation du travail qui va être opérée au sein de la NPE dans le courant des années 90 et qui va conduire à désormais avoir des agents totalement polyvalents, hein, qui font à la fois du conseil professionnel auprès des demandeurs d'emploi, du placement de base, de la prospection de l'offre d'emploi auprès des entreprises, enfin voilà, qui font absolument l'ensemble des tâches que autrefois l'organisation prévoyait de manière extrêmement spécialisée. Bon, évidemment, derrière toutes ces réorganisations, il y a aussi toute une configuration idéologique. Je pense au travail de Boltanski et Chiapello, par exemple, ont très bien analysé sur le capitalisme, hein, comment naît en fait de la critique artiste de l'après 68, et bien des thèmes clés comme l'autonomie, la personnalisation, le développement personnel, la flexibilité vont s'inscrire dans des nouvelles manières d'organiser le travail. Et on voit bien ici, dans ces univers extrêmement bureaucratiques, eh bien, évidemment, ces préconisations qui vont progressivement s'inscrire dans les nouvelles formes d'organisation du travail. Alors, il faut bien voir que ce n'est pas la première fois que ces organismes se modernisent, qu'il y a toute une histoire des formes de rationalisation du travail bureaucratique, qui est une histoire pour laquelle il y a quelques travaux, mais ce n'est pas aussi massif que sur l'histoire industrielle, par exemple. Bon, je pense au passage, mais au travail que fait Delphine Gardet, par exemple, sur justement sur le travail administratif. Je donne ici une photo d'une caisse primaire d'assurance maladie de 1947. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est vraiment aux premières années de la sécurité sociale. Hein, sa fondation date de 1945. On voit ici un travail. Je donne la photo d'après qui est intéressante, qui est 52, donc première forme importante de rationalisation du travail bureaucratique. Et là, on voit tout ce qu'on a fait par rapport à la photo précédente. Vous voyez toutes les caractéristiques, hein, du modèle weberien. Prenez cette grande photo, hein, on voit d'abord la spécialisation du travail. On a d'un côté des employés sans doute du fichier qui utilisent des machines à écrire. Et puis vous avez à gauche des rédactrices qui utilisent le stylo à la main, qui sont sans doute mieux qualifiées que celles de droite, puisque ce qu'elles écrivent est sans doute lié à la décision finale, ou en tout cas la décision qu'on va proposer. Donc ici, on est sans doute dans d'autres opérations. Vous voyez donc une spécialisation du travail. Vous voyez ces grands meubles de rangement. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Les meubles de classement vertical, qu'on trouve beaucoup moins présents dans l'ancienne photo. On ne voit pas très très bien. Mais en tout cas, on voit les papiers mis à plat, c'est des piles un peu rangées, beaucoup plus difficiles à classer. Bon, toute la question du classement de l'information, hein, sont des éléments importants. Et il faut vraiment regarder comment toutes ces innovations en matière de bureaucratique, du travail bureaucratique, vont se créer pendant l'entre-deux-guerres. Bon, et notamment ce mobilier, ces machines, hein, qui sont des éléments importants. Donc ça, c'est bien ce qu'on voit dans sur cette photo. Puis dernier élément, vous voyez qu'il y a une table qui n'est pas exactement configurée comme les autres tables,
qui est celle-ci là,
qui est au milieu. Ben voilà, c'est le chef, hein. C'est le chef de bureau. Donc grâce à sa supervision, qui contrôle ce que font les les employés qui l'entourent. Rappelons que cette organisation, elle renvoie à, quand même à des grands principes très importants. D'abord, l'idée de neutralité éthique du fonctionnaire. Neutralité éthique du fonctionnaire, c'est-à-dire si le fonctionnaire, enfin bon, ici l'agent ne rencontre jamais le public, c'est bien parce que cette rencontre directe avec le public risquerait de polluer en quelque sorte sa propre subjectivité, et il pourrait finir par ne plus appliquer les règles comme il devrait, avec la neutralité justement qui normalement doit le caractériser. La spécialisation, c'est bien l'idée d'un travail mécanique. Bon, c'est pas un hasard s'il y a une proximité avec l'organisation industrielle. L'agent ne fait rien. C'est ça qui est important dans la théorie, j'entends ici, du travail administratif. L'agent ne fait rien, il applique la règle, il applique un certain nombre de prescriptions réglementaires, il n'a pas à se poser de questions. Voilà. Et c'est ça, et c'est très important. La discrétionnarité, donc le traitement des cas plus compliqués qui obligerait une négociation avec les règles de droit, c'est l'apanage de la hiérarchie. Et la hiérarchie a précisément comme caractéristique d'être des super experts de la règle. Dans les organismes de sécu, vous voyez, le contrôle est le point de passage obligé pour une carrière dans la ligne hiérarchique. Donc on comprend bien l'idée, hein, c'est construire une expertise réglementaire. Et les agents de base n'ont pas à se poser de questions. Voilà, ils ont à appliquer les choses. Alors, de ce point de vue-là, on voit bien que la relation de service au sein de l'organisation du travail remet en jeu toutes ces idées. Hein. L'idée, par exemple, de responsabilisation du fonctionnaire. L'idée qu'il doit traiter l'affaire du début à la fin. Il doit être autonome, mais c'est pour s'engager, pour être... il est justement responsable de l'ensemble de l'affaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis un élément important sur lequel on va revenir, qui est la capacité du fonctionnaire à bien comprendre la globalité de la situation d'un usager, et compte tenu de cette compréhension-là, à pouvoir ajuster la règle. Ça, c'est un élément essentiel. Et qui est particulièrement importante pour certains publics qui présentent certaines particularités du point de vue de l'organisation. Et là, je veux insister sur un autre aspect de la relation de service, c'est que la relation de service introduit l'idée de différents publics. Elle met un S à public. Elle oblige l'organisation à segmenter ses publics. Elle oblige l'organisation à se poser la question, par exemple, de ces interfaces. C'est-à-dire que mettre un guichet, ce n'est pas la même chose que de mettre un serveur vocal. Ou de mettre en place des téléprocédures. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, nécessairement, si vous mettez des téléprocédures, vous rencontrez, je le dis grossièrement, mais la fracture numérique. Vous rencontrez des gens qui sont équipés d'ordinateurs et qui savent manipuler l'ordinateur, des gens qui ne savent pas. Un serveur vocal, même chose. Et donc, vous êtes obligé de penser les différents publics auxquels vous avez affaire en fonction de l'organisation et de prévoir des traitements spécifiques. Donc ça, c'est des éléments importants parce que, évidemment, dans l'ancien idéal type weberien, il y a un public homogène, extrêmement abstrait, très général, hein, et que la relation de service oblige, à travers ces réorganisations du travail, à reposer la question. Bon, généralement, il y a deux, en tout cas dans les organismes tels que je les évoque, il y a deux éléments importants qui vont venir, qui vont conduire ces organismes à segmenter le public. Ces deux critères importants, c'est le degré de dépendance économique avec les aides ou les subventions qu'on leur verse. C'est vrai que c'est pas la même chose de verser. Si vous versez le RMI à quelqu'un pour qui c'est le seul moyen de subsistance, évidemment sa dépendance économique vis-à-vis de la décision de l'administration est 10 fois plus forte que s'il s'agit d'une allocation ou d'un remboursement de soins plus marginal pour lequel il n'est pas dépendant économiquement. Puis le deuxième critère, c'est la dépendance administrative, hein, le fait d'être bien ou mal à l'aise avec les papiers, disons. Le fait d'avoir soi-même intégré, la capacité à intégrer les contraintes du travail administratif imposé par ce genre d'organisme. Bon, je ne vais pas plus loin, c'est juste pour montrer comment la relation de service induit toute une réorganisation des choses au niveau du travail. Bon. Le deuxième point de transformation qui me paraît très important, et tout autre chose, concerne le droit proprement dit, et donc l'évolution réglementaire. Je prends l'exemple ici des politiques familiales, et donc des caisses d'allocations familiales qui ont charge de verser un certain nombre de prestations auprès de leurs usagers. Bon, on peut, si on regarde comme ça l'histoire hein, de ces prestations, remarquer la chose suivante. D'abord, on a des prestations qui sont générales, qui s'intéressent à la population générale, et qui vont être distribuées sur la base de critères élémentaires extrêmement simples. Revenu, âge, état civil. Voilà, c'est ces critères. Et donc, ce sont ces critères depuis lesquels le législateur définit un certain nombre de prestations. Bon, les allocations familiales, c'est l'exemple type. C'est-à-dire que, à partir des années 60, se pose la question de cibler un certain nombre de populations. Bon, on prend les familles modestes, par exemple. Il va falloir réfléchir à un critère qui va permettre de discriminer cette population, donc de faire une analyse statistique intéressante de la démographie pour pouvoir s'interroger sur les effets économique d'une prestation, quel montant, comment la cibler, etc., quels critères retenir. Bon, mais je veux dire que, justement, à cette époque-là, en tout cas, on voit bien l'entrée en résonance à la fois tout l'appareillage statistique dont s'est constitué l'État, les machines qui tournent pour pouvoir cibler la bonne population et trouver le bon critère qui va permettre d'avoir les effets qu'on veut lorsqu'on versera la dite allocation aux familles modestes ou aux autres catégories de population particulières. Et puis voilà, les choses fonctionnent comme ça. Donc on voit bien qu'on est à un niveau très, très général, hein, qu'on cherche des critères extrêmement simples, donc du point de vue du travail administratif, qui ne vont pas demander à se poser 15 000 questions. Vous êtes orphelin, il faut qu'un des parents soit décédé, voilà, ça va être le critère. Modeste, eh bien, il va falloir décider des seuils de revenus, mais bon, une fois qu'on a déterminé un seuil de revenus, il n'y a pas grand-chose à faire. Et il y a une première cassure qui est très intéressante, qui va se placer au début, en tout cas, des années 70. La petite histoire, c'est Giscard arrive au pouvoir en 74 et commande auprès de Fragonard, qui est à l'époque caisse d'allocation familiale, et qui est donc responsable de la Caisse nationale d'allocation familiale, et d'imaginer une nouvelle prestation sociale pour les veuves. Après tout, on avait fait des choses pour les handicapés, pour les infirmes, pour les orphelins. Bon, il manquait la veuve dans le tableau. Et donc, on commence à faire tourner les machines. On fait des analyses statistiques, démographiques. On essaie d'isoler une population, d'essayer de regarder quels critères on pourrait trouver pour imaginer une prestation de ce type. Et Fragonard revient avec une population tout à fait inattendue du point de vue de la commande, qui est la situation de gens qui élèvent seuls leurs enfants sans être veuves en l'occurrence. On rencontre, en fait, évidemment, la transformation de la famille de la société française, des gens divorcés, séparés, et donc la prestation veuvage qui était imaginée au départ va se transformer en une prestation d'un nouveau genre qui va s'appeler l'allocation parent isolé, qui va reposer sur un critère, à savoir l'isolement. Et c'est quoi l'isolement? C'est l'incapacité à survenir à sa charge effective d'enfant, donc à ne pas pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant, après qu'on ait regardé l'activation des réseaux de solidarité familiale. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez être caractérisé comme isolé, et donc de ce point de vue-là, recevoir l'allocation parent isolé. Alors, c'est très intéressant parce que ici, le législateur, pour la première fois, va mettre volontairement une notion non juridique dans un texte réglementaire, hein. L'isolement, ça renvoie à rien pour le juriste, et volontairement ne va pas préciser de comment la caractériser, sinon ce que je viens de dire, précisément pour s'ajuster au mieux aux situations. Parce qu'il n'y a pas une personne isolée comme une autre. Donc on n'est pas capable de définir a priori un critère élémentaire général comme on le faisait auparavant pour cibler la population. Alors c'est intéressant parce que c'est une manière de redéfinir le mode d'attribution de subventions ou d'aides qui va progressivement gagner dans d'autres prestations. Hein. On va le retrouver avec l'allocation logement et sur la critère de solvabilité. Et puis on va le retrouver ensuite dans bon nombre de prestations qui vont être mises en place dans le cours des années 80, et dont précisément le législateur va veiller à ne pas présupposer de choses sur le handicap et les incapacités professionnelles qu'il induit pour définir le mode d'attribution de l'allocation adulte handicapé, ou la capacité à se réinsérer du bénéficiaire du RMI. Bon. Donc on pourrait continuer comme ça ici avec je pense aux PAR par exemple, hein, pour les demandeurs d'emploi. Mais on voit bien ici un glissement, hein, une évolution dans la réglementation, où désormais l'idée c'est l'inscription de notions floues dans le droit, hein, promesse d'une considération meilleure des situations au cas par cas, et massivement le recours, à partir du milieu des années 80, à la technique contractuelle dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le RMI, c'est la grande cassure, hein, enfin c'est une grande rupture de ce point de vue-là. C'est la fiction que entre le bénéficiaire et l'État, il y aurait un contrat. Donc, avec chacun des droits et des obligations, justement sur la base de ces critères, de ces notions floues en fait, qu'on ne peut pas prédéfinir a priori. Ici on a alors à ce moment-là, on voit bien comment ça rentre, cette évolution réglementaire entre en résonance avec l'évolution de l'organisation du travail que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que justement, avec la relation de service dans l'organisation du travail, c'est-à-dire l'idée d'une personnalisation du service, eh bien, en fait, on a une traduction, je dirais en termes fonctionnels, de cette exigence réglementaire à devoir mieux considérer l'ensemble des éléments d'une situation. Si vous voulez apprécier l'isolement d'une personne, bien mieux vaut justement cette personnalisation, rencontrer la personne, être capable d'avoir une vision générale et globale de chaque affaire pour finalement dire le droit auquel cette personne, en l'occurrence, a droit. Voilà. Je donne juste un exemple pour montrer que même à propos de prestations relativement simples, hein, la difficulté à apprécier les choses est parfois complexe pour l'agent, et donc tout l'intérêt ici de, c'est ce qui est dit, de cette personnalisation ou de cette réorganisation du travail. Donc je pose par exemple une question: quand arrêter le versement des allocations familiales? Alors voilà une question simple. D'un côté, des textes de loi, articles L512.1 et 512.2 du Code de la Sécurité sociale, qui définissent les conditions d'attribution. Et de l'autre, des usagers qui assument la charge d'un ou plusieurs enfants, ce qui leur ouvre des droits à prestations. Donc au final, l'agent ne peut toutefois appliquer si mécaniquement le droit. Alors soit un allocataire qui téléphone à la caisse, se plaignant de l'arrêt du versement des allocations. L'agent consulte l'ordinateur, constate que la fille de l'allocataire n'est plus étudiante et que, à ce titre, la prestation ne peut plus lui être versée, la fille étant âgée de plus de 18 ans. Pourtant, la fille en question est en recherche d'emploi et demeure à la charge effective de ses parents. Mais les textes ne prennent pas en compte cette situation et arrêtent le versement au terme des études suivies. Seulement voilà, quand convenir que la fille n'est plus étudiante? En septembre, ou faut-il remarquer que la fille a travaillé en juillet et en août 4 heures par jour, et à ce titre les suspendre avant l'été? Les textes disent oui, si c'est une activité définitive. Mais c'est quoi une activité définitive? Voilà. Donc on voit bien comment, hein, dans le travail administratif, on est transporté vers toutes sortes d'interrogations, et on voit bien comment, à propos de l'isolement, la solvabilité, l'incapacité professionnelle à travailler, sur ces notions, hein, floues, volontairement introduites par le législateur dans les textes, l'agent va se poser toutes sortes de questions. Bon, je donne un exemple. Vous voyez, enfin, toutes ces notions. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est ce que les juristes appellent à juste titre le travail de qualification, hein, c'est-à-dire comment les agents qualifient les situations en droit. Et du point de vue de la théorie officielle, c'est le juge qui est en quelque sorte le professionnel du travail de qualification. Mais les petits bureaucrates de base, en quelque sorte, que j'essaie de rendre de plus en plus consistants aujourd'hui avec vous, se posent des questions qui ne sont guère différentes, hein, au final, quand il s'agit justement de qualifier un cas de force majeure, une faute inexcusable, un isolement, etc., etc. Il y a une question forte derrière, c'est aussi comment on va équiper l'agent dans son travail de qualification. Est-ce que, par exemple, simple question, c'est un travail individuel ou c'est un travail collectif? Eh bien, la réponse ne sont pas toujours les mêmes. L'allocation parent isolé, c'est un service avec des agents, et les agents travaillent individuellement ces dossiers. L'allocation adulte handicapé, elle est versée, elle est attribuée suite à un passage à une commission. À une commission spécialisée, et donc là on a une décision collégiale en quelque sorte, hein, un examen collectif de chaque demande. Donc vous voyez, la question de comment on qualifie chaque situation pose après la question de comment on équipe justement ce travail de qualification. Bon, je passe à la troisième. Je vais être un peu long. Troisième mouvement de la transformation liée à la relation de service. Donc on voit ici les deux ramifications, relation de service, personnalisation, hein, des traitements, et la deuxième tendance, c'est relation de service qui va aller jusqu'à contractualisation. Hein. Ça, c'est vraiment l'idée importante. Alors, troisième élément important, finalement, c'est la remarque de Jean-Louis Derouet sur mon petit cylindre qui était au bord de la diapositive de tout à l'heure. Il faut bien voir que ces organismes ont réorganisé le travail, certes dans le sens d'une personnalisation plus grande, d'une autonomisation plus accrue de l'agent, au nom d'une plus grande implication, un meilleur engagement, etc. Bon, ça, on connaît tout ça. En même temps, y a toute une histoire de l'automatisation du travail et qui est extrêmement massive. Et ce sont des organismes dont on voit, dans le cadre du recours massif à l'informatique, une bascule à partir du début des années 90 très forte dans des programmes d'automatisation extrêmement lourds. Je m'explique. L'automatisation du travail, je prends par exemple un organisme comme les caisses d'allocation familiale que j'ai déjà évoquées. Hein. On a dans les années 60 déjà une mécanisation du travail. Bon, des fiches perforées, etc. Mais au début des années 70, on a des gros programmes d'informatique qui vont obliger, c'est ça qui est intéressant, à deux choses. Qui vont obliger d'abord à mettre en écriture binaire la réglementation. Compliqué. C'est pas simple. C'est pas des affaires simples. Et ensuite, évidemment, qui vont avoir une très grande importance dans la centralisation des données. Et donc, on a des fichiers, des bases de données de plus en plus lourdes et une centralisation de l'information qui va de plus en plus peser. Bon, ce cylindre qu'on désignait, eh bien, c'est le fichier le plus important de France. C'est le fichier national le plus important. Le fichier national des comptes individuels de la Sécurité sociale. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement fort. Et donc, derrière, on a des programmes informatiques extrêmement puissants. Il faudrait se souvenir de cette histoire des systèmes informatiques. Je regarde au cours des années 90. Hein, si on se souvient dans la presse, comme ça, quand ces grands services publics mettent en place leur programme informatique lourd, on a eu Socrate à la SNCF. Il y a eu Cristal aux caisses d'allocation familiale. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des téléprocédures, mais on sait très bien que le programme informatique aux impôts n'a d'autre but que de faire la réforme qui a échoué à l'époque de Christian Sauter, c'est-à-dire cette fusion entre la trésorerie et puis le centre des impôts. Hein. On pourrait revenir, si vous voulez, dans le détail, mais il me semble important de voir que d'un côté on a bien une organisation qui cherche à personnaliser, mais de l'autre on a bien ce processus de centralisation très fort, d'automatisation du travail, qui fait que désormais même les raisonnements de l'agent, etc., sont indissociables de l'algorithme informatique contenu dans sa machine. Alors, à cet égard, ce qui est intéressant, c'est que dire que il y a une part d'automatisation du travail est incomplet, parce que il y a aussi la volonté de plus en plus de tracer, en quelque sorte, l'ensemble des opérations que l'agent réalise pour traiter une affaire. Et donc, il y a la volonté, à travers le système informatique, d'un codage extrêmement minutieux et continu de l'ensemble du traitement, hein, et que c'est un codage qui va s'opérer en référence à des procédures standards, elles internationales, et qui renvoie là à une normalisation type norme ISO 9000. Je donne ici quelques éléments des principes de la norme ISO 9000 que désormais c'est 95% des caisses primaires d'assurance maladie qui se réclament aujourd'hui, qui sont certifiées de cette norme ISO. Donc il y a une volonté depuis la fin, à partir de la fin des années 90, de ces organismes à être certifiés qualité de service. Et cette certification passe effectivement par ce contrôle continu, ce traçage du travail en activité permanent, mais qui va s'inscrire dans la machine et dans la configuration même des algorithmes de l'ordinateur. Donc on voit ici comment la relation de service va se décliner en termes de procéduralisation, de mise en procédure du travail et d'un contrôle continu, très différent de ce point de vue-là, de ma photo de tout à l'heure d'un vieux service des années 50 très classique où le contrôle passe par la hiérarchie et par sa présence physique. Le chef n'est pas là, alors que là, évidemment, le chef ne peut pas être là, ça n'a pas le contrôle est continu. Bon. En même temps, chacun sait très bien que personne ne regardera exactement toutes les opérations qui sont comme ça tracées en continu, parce que ça donne des informations bien trop compliquées. Je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Bon, pas très bien. Enfin, en fait, ce que je veux montrer ici sur la diapositive, c'est comment la volonté d'être labellisée qualité de service va induire donc effectivement une certaine configuration des logiciels de traitement, des systèmes informatiques qui traitent les dossiers, et les agents qui ont en charge désormais d'accompagner leur travail, de tout un travail de saisie, de fiches de suivi. Alors je donne ici un exemple de fiches de suivi, où donc tout cet enjeu, c'est effectivement de tracer toutes les opérations qui sont réalisées. Bon, alors, ayant dit ces trois grandes transformations finalement de la relation de service, personnalisation, contractualisation, procéduralisation, et qui, on voit bien, sont des choses différentes, mais qui rentrent en résonance. Quelles conséquences sur le travail, et en particulier sur la subjectivité au travail? Bon, de manière générale, je dirais qu'il y a deux tendances possibles. Il y aurait une tendance qui consisterait à reconnaître une certaine autonomie de l'agent dans sa capacité à ajuster la règle aux situations locales. Et du reste, ce serait un des bénéfices de toute cette procéduralisation du travail. Ce serait de montrer, de donner à voir, en fait, eh bien, tout ce qu'il faut faire quand vous devez qualifier l'isolement d'une personne. Donc tout ce qui, en fait, demeurait relativement caché ou dans l'ombre, eh bien, apparaîtrait en quelque sorte. Mais évidemment, au prix d'une remise en cause de la théorie officielle, selon laquelle le fonctionnaire ne fait rien d'autre qu'appliquer la règle. Forcément, il fait autre chose. C'est pas une application mécanique. On voit bien. D'un autre côté, l'autre tendance, c'est revenir à la théorie officielle. Non, le fonctionnaire ne doit qu'appliquer la règle. En réglementant en interne les interprétations que l'agent doit faire lorsqu'il est confronté au réel de chaque situation. De manière à ce qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Donc on voit bien que en jeu, c'est bien le statut du travail de qualification que j'évoquais tout à l'heure, et qui renvoie bien à la réalité de l'activité de travail, que la relation de service, par la réorganisation qu'elle a produite, contribue à rendre visible, qu'elle rend en tout cas plus éclatante. Et donc, la question est bien de comment la traiter. Alors, je dirais deux points et je vais être rapide. Le premier élément qui me paraît important, c'est que ce travail de qualification est massivement effacé. Donc, à vrai dire, ce qu'on voit dans les organisations, en tout cas moi ce que je vois, c'est plutôt que ce travail de qualification fait l'objet d'un effacement. Donc il y a bien cet effort, cette tendance à revenir à la théorie officielle selon laquelle l'agent ne fait rien d'autre qu'appliquer les règlements. Et pour cela, on a en interne de ces organismes, caisse de sécurité sociale, mais je trouve la même chose dans d'autres services de l'État, une inflation réglementaire extrêmement stupéfiante, où par le biais de circulaires, jusqu'à des notes de service, on a les prescriptions très précises que l'agent doit suivre pour traiter chaque affaire. Je donne un exemple, un exemple très simple. Il s'agit d'agents confrontés au problème de savoir ce qu'est un couple et ce qu'est un célibataire. Bon, moi j'étais assez étonné quand je devais faire mes enquêtes dans des caisses d'allocation familiale. C'est vraiment une discussion, vous savez, c'est comme des grandes controverses sur les sexes des anges ou des. Vraiment, ça n'en finissait pas. D'abord, il faut savoir que ça concernait essentiellement. La question venait surtout pour les étudiants qui demandaient l'allocation logement et qui, pour X raisons, partageaient leur logement avec quelqu'un d'autre. Donc, le problème de savoir si, avec ce quelqu'un d'autre, ils formaient un couple ou s'il s'agissait simplement de deux célibataires cohabitants. Alors, vous voyez, on peut prendre plein de critères. D'abord, déclaration de la locataire. On peut se fier uniquement à sa parole. La question de savoir si les gens vivent sous le même toit est évidemment un élément important, mais la question de leur sexe. Donc on a une vision très hétérosexuelle du couple. Et là, la question, on avait bien des services où systématiquement, les sexes étant opposés, les gens vivant sous le même toit, c'est donc un couple. Bon, ensuite, on vérifie si les gens n'ont pas de lien de parenté. Donc, s'il s'agit d'une tante et d'un cousin, on suppose que ce n'est pas possible que ce soit un couple. Ou si la proximité d'âge, on suppose qu'un vieux monsieur et qu'une jeune fille, ça ne peut pas constituer un couple. On peut regarder les titulaires du bail. On va supposer que deux titulaires d'un bail en colocation, ça constitue bien deux célibataires. Vous voyez, on cherche à trouver des critères. Vous comprenez bien que c'est à chaque fois, c'est une aberration, mais en tout cas, on a bien des notes de service, des circulaires qui à chaque fois vont volontairement préciser ce genre de choses, et qui donc évidemment posent problème pour les agents quant à la réalité des choses auxquelles ils font face. Soit à un moment donné, ils finissent par considérer que tant pis. C'est à la règle que je me réfère. Donc, deux titulaires d'un bail en colocation, c'est forcément deux célibataires, et je ne vais pas chercher au-delà. Ou au contraire, chercher par des questions pièges, savoir si vraiment ces deux jeunes, c'est pas un couple. Et donc, on va demander combien il y a de chambres, on va chercher combien il y a de lits. D'ailleurs, je vois pas ce que ça peut. On pourrait continuer à l'infini la discussion. Donc, on voit bien comment, ici, la prescription organisationnelle du travail qu'on surajoute dans l'organisation, donc, contribue à effacer le travail réel qui est réalisé. On efface, proprement dit, le travail de qualification. C'est ça l'enjeu. On veut en revenir à l'idée que tu as tes critères, tu les appliques et point. Donc c'est bien l'enjeu, c'est de savoir si cet ajustement à la réalité de chaque situation, il est opéré en clandestinité, seul, ou au contraire, s'il est l'enjeu possible d'une régulation collective. Ce qui suppose évidemment la reconnaissance de ce travail de qualification. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important. Je dirais que dans les façons de faire, ce qu'on peut observer lorsqu'il y a une reconnaissance de ce travail de qualification, soit il y a la volonté de remonter les cas, les problématiques. Donc à chaque fois qu'il y a problème, il y a la volonté que ce soit la hiérarchie qui le traite. Donc on essaie de revenir de ce point de vue-là au modèle classique weberien, où le pouvoir discrétionnaire est celui du chef. Ou alors, on met en place, par le biais de réunions de services, de commissions ad hoc, justement la possibilité que les agents puissent se rencontrer et discuter des cas problématiques auxquels ils ont affaire pour finalement statuer d'une bonne manière de procéder, d'une bonne manière de décider. Voilà. Mais sur la base, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler une jurisprudence professionnelle. C'est-à-dire une collection de cas problématiques où dire le droit est une opération complexe, mais où il y a un savoir partagé auquel on peut faire référence. Voilà. Donc on voit bien qu'ici, on a différentes façons de répondre, sachant que, très largement, ce que moi je peux rencontrer, c'est malgré tout pas ça. C'est plutôt l'effacement du travail de qualification et l'inflation réglementaire en interne qui peut avoir des conséquences sur le travail relativement importantes. Je donne un exemple ici avec un autre plan. Vous avez ici un pool téléphone. Ça date un peu, aujourd'hui on parle de plateforme téléphonique et ça concerne un peu plus de monde, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est juste le plan, et puis vous comprendrez vous-même les effets. Vous avez 6 personnes, donc il y a 5 personnes qui sont en fait des agents qui traitent la réponse téléphonique. Donc on est dans une caisse d'allocation familiale. Et vous avez un 6e qui est donc le superviseur, qui n'est pas le chef, c'est juste un superviseur. C'est-à-dire un agent qui est en fait un agent au même niveau de qualification que les autres, mais qui a une bonne expertise de la règle et qui, en plus de la réponse téléphonique qu'il peut faire à l'instar de ses 5 autres collègues, doit gérer un certain nombre de suivis de l'activité du pool. Voilà. Donc il a toute une activité de gestion comme ça importante. Vous voyez que son bureau n'est pas exactement placé comme les autres, toujours pour permettre cette supervision, mais dont il n'a que faire parce que de toute façon, incrusté sur son écran d'ordinateur, il a les 5 postes et voit tout à fait l'activité en continu des opérateurs. Alors en gros, un appel téléphonique ici, vous êtes allocataire, vous téléphonez à votre caisse d'allocation familiale, vous vous retrouvez sur un répondeur qui vous donne la possibilité de basculer sur un serveur vocal. Donc cette automatisation permet de répondre aux questions les plus simples, du genre est-ce que j'ai reçu mes allocations ou quand est-ce que je vais recevoir mes allocations. Donc ça, vous avez tout de suite la réponse. Et quand l'affaire est plus compliquée, vous basculez donc du côté du pool. Les rectangles bleus sont intéressants, ce sont des aquariums. C'est-à-dire que les aquariums ont cette vertu, paraît-il, d'apaiser l'opérateur, donc de le déstresser. Parce que c'est ça, c'est un travail réputé stressant. Et bon, hélas, les agents transformaient les aquariums pour apposer les notes de service. Ce qui fait que les poissons baignaient dans un bain de papier. Bon, mais l'élément le plus intéressant, à bien des égards, ce sont les compteurs qui sont sur le mur du pool téléphone et qui sont des compteurs qui disent l'activité du pool. En fait, ici, vous avez le détail. Donc, le nombre de postes qui sont ouverts, 6, un poste de libre, donc il y a un poste qui n'est pas occupé, 5 postes qui sont en cours de conversation et 12 appels qui sont en attente. Et en fonction du seuil de nombre d'appels en attente, eh bien, vous avez un feu tricolore qui n'est pas présent dans le pool, dans la pièce du pool, mais qui est présent dans un autre bureau, qui est le bureau des cadres. Et donc, le feu bascule du vert à l'orange, de l'orange à rouge, en fonction du seuil d'attente. Et donc, les agents pris dans cette situation-là parlaient de deux stratégies possibles pour parler de leur travail. Hein. C'était soit traiter les appels, soit prendre les appels. Et ça, c'est un élément intéressant. Prendre les appels, c'est faire de l'abattage. C'est faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible en attente, mais au risque d'un sentiment de ne pas faire convenablement son travail, c'est-à-dire de ne pas pouvoir rentrer dans les situations compliquées auxquelles la réglementation, telle qu'elle est configurée, fait qu'on est confronté. Donc soit prendre des appels ou traiter des appels, c'est-à-dire décider à ce moment-là qu'au contraire, on irait dans le fond de chaque affaire, mais au détriment évidemment de l'attente de tous ceux qui cherchent à joindre le pool téléphonique, considérant qu'ici, le problème, c'est un problème de conditions de travail, et que c'est peut-être pas 6 agents qu'il faut, mais 12 ou 20, etc. Donc, ça me permet de terminer sur sur ce que j'évoquais en introduction, et sur les conséquences du vécu au travail. Cette capacité à circuler entre l'organisation, les ressources dont on dispose pour pouvoir avoir une action efficace, et puis la référence à l'idée, à ce pourquoi on est là, ce pourquoi on travaille, le sens de son travail, et qui renvoie au projet fondateur de l'institution dont on est membre. Et il me paraît important d'insister ici sur deux formes d'expression de malaise possible, sur lesquelles on pourra discuter. La première forme que j'appelle l'épuisement, la seconde que j'appelle la fatigue. Bon, je fais référence à Deleuze, donc je pourrais revenir ici sur cette référence. Mais vraiment, la question de la fatigue, je prends la fatigue en premier. C'est vraiment ce sentiment précisément d'impuissance, de bâcler son travail. C'est-à-dire que on comprend bien l'enjeu de son action, on comprend bien le projet qui fonde l'institution dans laquelle on est, cela fait sens, mais on n'est pas en mesure de le mettre en œuvre. Et on n'est pas en mesure de le mettre en œuvre compte tenu de l'état de l'organisation. Donc ça, il y a un certain nombre de questions ici sur les conséquences de l'intensification du travail, sur lesquelles on peut revenir parce qu'il y a une littérature intéressante ici, mais ça me semble être important pour pouvoir formuler cette référence à la fatigue. Voilà, on est fatigué parce qu'on n'arrive pas, on n'y arrive pas. Alors, c'est sans doute à distinguer, en tout cas, de mon point de vue, c'est important à distinguer, de la notion d'épuisement. Parce que l'épuisement, c'est tout à fait autre chose. C'est l'application des consignes, des prescriptions, de l'organisation, mais qui n'a plus de sens, dont on ne voit plus bien quel lien elle a avec l'institution dans laquelle on est. Je pense à une situation de travail que moi je rencontre aujourd'hui, qui est celui d'agents du ministère de l'Agriculture qui contrôlent des éleveurs pour vérifier que toutes les prescriptions en termes de traçabilité animale sont respectées, qui se retrouvent pendant 3 heures, 4 heures, ça dure très longtemps, à faire un examen extrêmement méticuleux de tous les papiers, de toute la production administrative qu'un agriculteur doit mettre à jour dès lors qu'il a quelques bovins dans son étable. Et au fur et à mesure que le travail, qu'on voit le contrôleur faire ce relevé administratif de tous les éléments, de toutes les pièces, remplir point par point ces formulaires, en fait, c'est le rapport au réel qui devient problématique. Et c'est le statut du travail d'éleveur que le contrôleur connaît bien, parce qu'il est contrôleur, il est le ministère de l'Agriculture et il connaît le milieu rural sur lequel il intervient, mais que progressivement, de par son propre travail, il contribue à effacer. Donc il y a une sorte de situation très, très curieuse. Et effectivement, je pense que ces questions d'épuisement surviennent quand, à un moment donné, vous finissez par ne plus vous poser de questions. Votre façon de s'en sortir, en quelque sorte, consiste à appliquer les choses, à faire ce relevé administratif, point par point, détaillé, à appliquer les procédures, les fiches de suivi, à ne plus vous poser de questions. Mais bon, évidemment, c'est des risques de choses un peu étranges qui peuvent se passer. Voilà. Bon, comme vous avez eu des exposés auparavant, avant moi, hein, sur ces questions d'épuisement professionnel, de burn-out, d'un côté, sur lesquels on pourra, j'imagine, discuter, parce que en tout cas ça peut faire écho et en même temps il faut voir comment. Et puis vous avez eu Yves Clos sur ces questions du genre, hein, cette capacité à faire référence à un savoir collectif, etc. Bon, sur toutes ces questions, il me semble que là on peut discuter. Voilà.